BPM, élections législatives 2024.
Bonjour à tous, bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Le premier tour des élections législatives aura lieu ce dimanche 30 juin. Le second tour lui aura lieu le dimanche 7 juillet. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales où nous recevons les 8 candidats sur la 5e circonscription de l'Eure. Et aujourd'hui, nous recevons pour conclure cette semaine d'émissions Timothée Houssin, député sortant et candidat pour le Rassemblement National de la 5e circonscription de l'Eure. Timothée Houssin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 35 ans, vous êtes conseiller régional en Normandie et vous êtes donc le député sortant de la 5e circonscription de l'Eure. Vous avez décidé de vous représenter à nouveau pour ces élections législatives 2024 et votre suppléant se nomme Dylan Covin. Durant cette émission, nous allons passer en revue votre projet pour la circonscription, vos propositions et vos priorités pour les prochaines années. Tout d'abord, revenons sur la décision du président de la République survenue le 9 juin dernier, juste après les résultats des élections européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous, comment est-ce que vous avez réagi face à cette annonce?
On l'attendait pas forcément à ce moment précis. Cependant, la dissolution, on l'a demandé et elle est relativement logique. En effet, Emmanuel Macron a quand même eu à l'occasion des élections européennes 17 points de retard sur la liste de Jordan Bardella, ce qui pour un président en exercice est un véritable camouflé. C'est un écart qui est absolument historique. Je pense que les Français veulent maintenant fermer la page de la Macronie. Il était nécessaire pour que l'Assemblée nationale soit représentative de l'opinion actuelle des Français de reprocéder à des élections. Et nous pensons que nous pouvons représenter tout simplement une alternance, une nouvelle majorité qui va mener une autre politique. C'est la raison pour laquelle nous nous présentons à nouveau à ces élections législatives. Précédemment, nous avons joué à l'Assemblée nationale un rôle d'opposition constructive. Nous n'avons jamais été sectaires dans nos votes quand des propositions nous semblaient bonnes et qu'elles venaient de la Macronie ou à l'inverse qu'elle venait de la gauche, nous avons été capables de les voter. Mais pour l'instant, nous n'avons pas pu faire passer un certain nombre de nos idées car nous étions minoritaires et nous aspirons, après ces élections législatives, à devenir majoritaires et à pouvoir mettre en place notre programme.
L'annonce de la dissolution qui a suivi les résultats des élections européennes, ça a été pris comme une première victoire pour le Rassemblement National, une belle victoire, une belle avancée pour le parti?
Oui, nous, on avait promis à nos électeurs que si on faisait un gros score aux élections européennes, ça semblait hypothétique, mais on pouvait obtenir une dissolution de l'Assemblée nationale et on pouvait obtenir une majorité. La large victoire du Rassemblement national aux élections européennes, elle a eu lieu. La dissolution, nous l'avons obtenue. Maintenant, il nous reste la troisième étape à franchir. C'est celle que les électeurs nous fassent à nouveau confiance, qu'ils amplifient notre victoire et qu'ils nous donnent, en fait, avec Jordan Bardella, la capacité de gouverner le pays.
Il y a deux ans, aux dernières élections législatives, le Rassemblement national a remporté 4 des 5 circonscriptions du département. Cette année, l'objectif, il est assez clair, c'est 5 sur 5.
Aujourd'hui, l'objectif, il est très clair, c'est de faire le grand chelem et de remporter l'ensemble de ces 5 circonscriptions. On pense cependant que les scrutins vont être serrés. Pour nous, l'objectif, c'est de conserver les circonscriptions que nous avons emportées en 2022. Nos députés ont montré qu'ils étaient capables de faire un travail important à l'Assemblée nationale, d'être présents sur le terrain. Donc nous pensons que les électeurs devraient les reconduire. Et puis sur la 4e circonscription, celle qui est tenue actuellement par la gauche, eh bien nous nous inquiétons du programme qui est défendu par le Front populaire, qui nous semble d'un point de vue financier intenable. L'élection avait été perdue la fois dernière sur cette circonscription à environ 200 voix. Et nous pensons effectivement que notre candidat peut l'emporter cette fois-ci.
Il y a deux ans, on l'a dit, vous avez été élu aux dernières élections législatives. Vous remettez donc votre siège en jeu cette année. Ça a été vous étiez directement d'attaque pour repartir à l'aventure à l'annonce de la dissolution.
Oui, vous savez, on a été sur le terrain quotidiennement depuis notre élection en 2022. Donc on repart en campagne finalement à la rencontre d'électeurs et de concitoyens qu'on rencontre au quotidien, qu'on côtoie et avec qui on discute depuis deux ans. Je pense qu'on a aussi pu montrer notre capacité de travail à l'Assemblée nationale. Donc on a pour nous une campagne de 3 semaines, 1 mois qui s'inscrit dans une certaine continuité à la fois dans le fait de faire campagne et d'être en contact et à l'écoute de nos concitoyens et à la fois demain de nous remettre au travail puisque nous allons reprendre potentiellement nos postes de députés et continuer la mandature pour laquelle nous avions été élus. Ce que nous espérons aussi, c'est cette fois-ci arriver beaucoup plus nombreux et pouvoir mener les débats.
Si vous pouviez faire un bilan de vos 2 années en tant que député, ce serait lequel? Quelle a été la principale problématique en tout cas qui a été remontée vers vous par les habitants?
Moi, j'ai beaucoup travaillé à titre personnel sur le sujet des déserts médicaux. Je suis co-président à l'Assemblée nationale du groupe d'études qui travaille sur ce sujet. Ça réunit une centaine de députés. Et nous menons avant tout des auditions auprès de professionnels de santé, d'étudiants en médecine, de doyens de fac de médecine, d'usagers aussi, pour essayer de trouver des réponses aux problématiques de la désertification médicale. On a obtenu des choses durant cette mandature, davantage de moyens par exemple pour les jeunes qui vont s'installer dans les déserts médicaux. On était en train de créer la mise en place de filières santé dans les lycées des déserts médicaux, parce que moi je pense que c'est avant tout les jeunes qui viennent de nos déserts médicaux qui sont les plus à même à devenir demain nos médecins. C'est un gros dossier sur lequel j'ai pas mal travaillé, sur lequel je souhaite continuer à avancer. Et puis l'autre, je dirais, grand axe que nous avons au-delà de notre action à l'Assemblée nationale, c'est aussi le rôle, quelque part, de Maison France Service et de service public qu'on joue auprès de nos concitoyens, que ça soit dans ma permanence des Andelys ou par le biais de permanences itinérantes, que je tiens par exemple à Vernon. Nous rencontrons un certain nombre de nos concitoyens, que ça soit des particuliers, des associations ou des entreprises, qui viennent nous voir au sujet des problématiques légales et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et nous avons, et en particulier d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi comme suppléant Dylan Covin, qui était mon collaborateur parlementaire chargé justement de ces questions locales et de ces dossiers locaux. Nous avons aussi une grosse partie de notre activité qui a été liée à recevoir ces personnes, à entendre leurs problématiques, à les faire remonter à Paris quand il s'agit de problématiques législatives, et puis à les aider à régler des problématiques où on joue finalement un rôle un petit peu de à la fois de conseiller juridique et puis de service public.
Parlons maintenant de votre programme pour la suite, en tout cas si vous êtes élu. Évidemment, nous allons aborder pour commencer le pouvoir d'achat. Les Français ont connu encore une fois une forte baisse de leur pouvoir d'achat. J'imagine qu'il y a tout un tas de choses, de solutions que vous souhaiteriez proposer pour l'améliorer tout simplement.
Oui, tout à fait. On a été un petit peu les premiers à parler du pouvoir d'achat. Moi, je pense dans la présidentielle notamment de 2022, Marine Le Pen avait fait du pouvoir d'achat son cheval de bataille. Et je me souviens qu'un certain nombre de ses adversaires avaient tendance un petit peu à la caricaturer ou à se moquer d'elle en disant que c'était pas le principal sujet. Comme elle l'avait prédit, d'ailleurs, l'inflation a été extrêmement importante, en particulier à cause de la fuite en avant des prix de l'énergie. Donc nous, notre première mesure, si nous obtenons une majorité demain, ça sera de faire baisser la TVA sur les produits énergétiques, c'est-à-dire la faire passer de 20 à 5,5% pour redonner de l'oxygène aux Français, à nos concitoyens qui doivent se déplacer pour aller travailler, qui doivent se chauffer. Et en faisant ainsi baisser les prix de l'énergie, on va redonner du pouvoir d'achat aux Français. On est conscient que ça va avoir un coût de 12 milliards d'euros, mais nous pensons aussi que cet argent qui va être récupéré par les Français, finalement, il va être aussi redépensé, notamment dans l'économie locale. Il va amener des nouvelles recettes de TVA, des nouvelles recettes d'impôts, notamment pour les entreprises du secteur. Donc ça va avoir un effet positif. Et puis, on souhaite aussi que l'on puisse revaloriser les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, que l'on puisse augmenter, en fait, les entreprises puissent augmenter les salaires jusqu'à 10% en étant exonérés de charges patronales. Parce qu'il faut bien savoir que si vous êtes un employeur, si vous augmentez votre salarié de 100 euros net sur sa fiche de paie, vous, ça va plutôt vous en coûter 400. Et nous, on veut que la France qui travaille s'en sorte mieux, qu'elle puisse bénéficier de marge. Et on est aussi conscient que ce qui est proposé, par exemple, par nos adversaires à gauche, le SMIC à 1600 euros, n'est pas réaliste parce que c'est pas finançable. Donc nous proposons aussi ça pour redonner du pouvoir d'achat aux Français qui travaillent, sans pour autant mettre en difficulté nos entreprises qui ont parfois affaire à une concurrence d'entreprises de pays étrangers qui n'ont pas les mêmes normes sociales que nous.
Et quid de la réforme des retraites aujourd'hui ?
Alors, la réforme des retraites, il y a eu dans le temps de l'urgence, c'est-à-dire dans les prochains temps, une réforme que Jordan Bardella va mettre en place, c'est-à-dire retourner à la retraite à 60 ans pour les gens qui ont commencé avant 20 ans et qui auront travaillé pendant 40 ans ou plus. Et ensuite, la réforme de moyen terme que nous souhaitons, elle concerne, elle, les personnes qui ont commencé à travailler après 20 ans. Et dans ce cas, il s'agit de partir en retraite à partir de 42 ans, de 62 ans, pardon, avec 42 annuités.
Autre sujet économique, quand on lit votre programme, vous souhaitez lutter contre les fraudes sociales et les fraudes fiscales. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment est-ce que vous comptez faire ça?
Bah, concrètement, dans le cadre de l'accord aussi qu'on a passé avec les LR de Monsieur Ciotti, nous avons par exemple un magistrat, Monsieur Charles Prats, qui est spécialisé dans la lutte contre la fraude sociale. Il a écrit notamment un certain nombre d'articles estimant que la fraude sociale et la fraude fiscale s'élèvent à plus de 30 milliards d'euros par an dans notre pays. Je pense qu'on peut prendre par exemple un exemple. Il y a plusieurs millions de fausses cartes vitales qui sont en circulation dans le pays. Cela nous coûte énormément. Nous, nous souhaitons lutter contre ça. Nous pensons qu'il y a des marges de manœuvre pour récupérer de l'argent de ce côté, ce qui nous permettra de financer d'autres choses. On veut lutter contre les fraudes sociales et les fraudes fiscales, mais on veut aussi faire des économies, par exemple, en réservant un certain nombre d'allocations non contributives aux Français. Nous, on est, je pense, la seule équipe politique qui est consciente qu'à la fois il va falloir dégager des marges de manœuvre pour donner plus de pouvoir d'achat aux gens, pour pouvoir agir sur les questions de sécurité ou sur l'éducation et la santé, mais que les Français aujourd'hui, on ne peut plus ni augmenter leurs impôts, qui sont déjà très élevés, ni augmenter la dette. Donc il va falloir faire des arbitrages, il va falloir trouver des sujets sur lesquels on peut faire des économies pour dégager des marges de manœuvre vers ce qui nous semble prioritaire.
Vous désirez également réduire le coût de l'immigration aussi, et donc à travers ça, réduire également drastiquement l'immigration en expulsant notamment aussi des délinquants étrangers.
Oui, on souhaite que les délinquants étrangers soient expulsés. On souhaite aussi mettre fin à l'automaticité du droit du sol, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous naissez en France de parents étrangers, vous devenez à terme automatiquement français. Nous ne pouvons revenir là-dessus. Nous voulons aussi que les préfets ne puissent plus régulariser un certain nombre de clandestins. Nous, si vous rentrez illégalement sur le territoire français, nous pensons que vous avez vocation à le quitter. Et puis, bah, les Français ont maintes fois répété par leur suffrage qu'ils estimaient qu'il y avait une immigration trop importante en France. Nous souhaitons effectivement la restreindre, ce qui va également être une source d'économie.
Vous parliez tout à l'heure des déserts médicaux, un sujet qui touche quand même particulièrement le département de l'Eure et notamment la cinquième circonscription de l'Eure. Vous avez pu vous en rendre compte notamment les deux dernières années. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour continuer de combattre ce problème?
Il y a quelque chose d'indispensable à long terme, c'est de former davantage de médecins. On est en train d'y travailler. Il faut que ces médecins, pour moi, viennent en bonne partie de nos déserts médicaux. Quand on interroge des jeunes étudiants en médecine, on s'aperçoit avant tout que l'endroit dans lequel ils s'installent, c'est l'endroit dans lequel ils ont leur famille, où ils ont leurs amis, c'est-à-dire où ils ont des connaissances avant d'entamer leurs études de médecine. Donc je pense qu'il est important de sensibiliser les jeunes de nos territoires, mais aussi leurs parents, à la possibilité qu'ils ont, s'ils ont le niveau suffisant, de mener des études de médecine, peut-être rassurer un certain nombre de parents dans des familles où les gens n'ont pas forcément fait des études longues sur la possibilité aussi financière pour ces jeunes de suivre des études et donc de ne pas commencer à travailler et avoir des revenus importants demain matin. Et puis, avant la sortie de tous ces médecins de formation, il va falloir pallier à la problématique de court terme, c'est-à-dire que nous savons que pendant un certain nombre d'années, nous allons encore rester avec un déficit médical. Et là, nous pensons d'une part qu'il faut faire des mesures fiscales pour favoriser le fait que les médecins qui partent en retraite continuent à travailler en les exonérant d'imposition pour les encourager à le faire. Et puis il va falloir donner plus de temps médical. On pense notamment à supprimer un certain nombre, c'est d'ailleurs demandé par un certain nombre de médecins, un certain nombre de certificats médicaux qu'on pourrait remplacer par des certificats sur l'honneur. Je pense notamment à des congés maladie que vous pouvez avoir et bien sûr qui devraient être contrôlés lorsque vous êtes absent de votre travail mais que vous n'êtes pas payé, vous êtes sur des jours de carence, par exemple lorsqu'un de vos enfants est malade ou lorsque vous avez simplement à être malade une journée et absent et non rémunéré. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en France, le délai moyen pour avoir accès à un médecin, il est de 2 jours. C'est davantage dans les déserts médicaux. Et la problématique de nos concitoyens, c'est que quelqu'un qui a besoin d'un certificat médical du jour pour justifier de son absence, il ne parvient pas à l'obtenir dans notre région puisqu'il a des difficultés à accéder aux médecins. Et de la même façon, les médecins nous disent, moi, ma salle d'attente et mes rendez-vous sont aussi pris parfois par des gens à qui il faut que je délivre un certificat médical, mais qui ont une maladie tout à fait bénigne et qui n'auraient pas eu réellement besoin de venir me voir. Donc, entre autres propositions, celle-ci nous permet de gagner du temps médical et donc de pouvoir soigner prioritairement les gens qui en ont le plus besoin.
Pour conclure cette émission, toujours en lien avec le territoire rural de la circonscription, et comme il y a 2 ans, vous souhaitez toujours accompagner, soutenir en tout cas les agriculteurs locaux.
Oui, tout à fait. On souhaite déjà, la première chose qui serait possible de mettre en place avec une majorité, c'est de revenir sur la surtransposition de normes européennes. Moi, je pense particulièrement au secteur des trépanies où on cultive la betterave et où nos agriculteurs sont mis en fait en concurrence déloyale finalement, non seulement avec des agriculteurs du bout du monde, je parlais par exemple aux Brésiliens, mais aussi avec d'autres agriculteurs de l'Union européenne parce que nous n'avons pas les mêmes normes et que nous sommes sur le même marché. Donc voilà quelque chose sur lequel on pourrait agir. Et puis nous, on souhaite aussi que il y a une meilleure rémunération des agriculteurs par rapport à ce que leur offre et ce que prend la grande distribution.
Timothée Houssin, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission sera rediffusée à 13h et 18h30 et vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet www.bpmlaradio.com, rubrique podcast, puis élections législatives 2024. Dès lundi matin, vous retrouverez les résultats de ce premier tour des élections législatives dans votre journal local sur les antennes de BPM 99.3 avec les réactions des candidats. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élections législatives 2024.